Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly. Épisode numéro 39, donc semaine de sortie
39.
Ça va arriver.
Selon nous.
Oui, selon nous, puisqu'en fait nous sommes la semaine 9 de 2011.
Oui.
Même pas, nous sommes la semaine 8.
Alors bon,
nous enregistrons. Bref, c'est du n'importe quoi.
Comme d'habitude.
Comme toujours, bah oui, c'est la marque de fabrique. Donc on va commencer par le numéro de la semaine, comme à chaque fois. Hein, le numéro 39, pour moi, ce sera le Tales of Suspense numéro 39. Gentiment soufflé par Bunny, puisque j'étais à la bourre pour chercher un 39 et voilà.
Oui, je lui ai dit c'est celui-là qu'il faut prendre.
Donc Stan Lee, Don Heck, c'est la première apparition d'Iron Man. Voilà.
Juste ça, oui.
Juste un petit numéro comme ça en passant.
Un personnage assez mystérieux d'ailleurs à l'heure actuelle, on se demande encore quelle était son utilité. Avec une armure bidon,
C'est vrai que la première était toute pourrave. Hein.
On aurait dit un vieux scaphandrier, enfin bon. Un truc assez moche, quoi.
Faudra attendre, je crois, le numéro 40, 41.
Suivant. Numéro suivant.
Peigne son armure en doré, histoire de ne pas effrayer les gens.
Oui. Je sais, alors là, franchement, peins-toi en doré pour pas effrayer les gens si t'as une sale tête.
Puisque la couleur dorée était vu un peu mieux par le public qu'il défendait que cette couleur grise qui lui donne un aspect un peu golem, un petit peu froid.
Oui, donc, oui, c'est vrai. Non, mais oui, d'accord, oui, je comprends la logique. Mais très vite, il va avoir son costume rouge et doré, quoi.
Ouais.
Rouge et or.
Qui sera quand même un peu plus classe, je trouve.
Oui, et qui va évoluer sous 10 000 exemplaires. Bref. Ouais. Eh bien, moi, alors, je peux y aller?
Bien sûr. Vas-y.
Donc, Amazing Spider-Man 39. Alors, pourquoi Amazing Spider-Man? Bah, parce que c'est quand même le premier avec John Romita Senior au dessin.
Quand même.
Donc, voilà, quand même. Et en plus, c'est l'épisode où le bouffon vert se démasque et on s'aperçoit que c'est, au fait, Norman Osborn. Jusque-là, on ne savait pas sa véritable identité, même si...
C'était Norman Osborn? Oh, mais je ne savais pas. Tu viens de me spoiler.
C'était Kaiser Soze, au fait. Mais faut pas le dire. Mais justement, l'une des raisons qui ont fait que Steve Ditko est parti, c'est que il n'était pas forcément d'accord avec les choix que prenait Stan Lee au scénario, et lui, il voyait plus le bouffon vert comme étant une espèce de créature, une divinité, je crois, égyptienne, ou dans le genre, enfin, un truc complètement en dehors de,
quoi.
Oui, surréaliste et en dehors de ce que recherchait Stan Lee, entre autres choses, hein, puisque, par exemple, je trouve que le personnage de Gwen Stacy a beaucoup changé. Quand c'est passé à John Romita Senior au dessin, puisqu'on sait que les dessinateurs influençaient aussi pas mal les scénarios de Stan Lee, quoi. Ils avaient leur mot à dire, en fait.
Oui, bah oui, puisqu'ils dessinaient avec juste un script et après ils remplissaient les dialogues.
Et voilà. Et du coup, Gwen Stacy s'en trouve, à mon sens, radicalement changée. Elle passe d'une fille un peu bitchy, on va dire, à une nana toute sympa, voilà, qui est vraiment la copine idéale.
C'est pour le mieux, parce que ça nous a apporté de grandes histoires par la suite.
Exactement.
En regardant ce côté bitchy, je pense pas qu'elle serait sortie avec Peter Parker. Et aurait fini écrasé d'un pont.
Et Peter Parker aussi, hein, il change. Il passe du nerd à lunettes à un mec qui traîne en moto à l'époque. Veste en cuir, moto, il se rebelle, quoi.
Oh, le rebelle. Bref, c'était la grande époque.
Oui. Oui, c'était plutôt pas mal. On va passer aux news, du coup. Alors, on va commencer par Marvel, cette fois-ci. Peut-être déjà, en parlant des trailers, enfin des teasers, plutôt, je devrais dire, puisque c'est de la BD. Teaser X-Men, alors 2011 serait peut-être l'année des X-Men.
Ah bah, c'est peut-être clairement, parce que... c'est clairement l'année des X-Men, c'est comme ça qu'il envisage chez Marvel.
Donc, Axel Alonso est...
MMX1. MMX1, plutôt.
MMX1. 2011, donc.
2011 en chiffres romains.
Exactement.
Mais je crois que les Américains savent pas très bien lire les chiffres romains.
Ouais. Oui, donc beaucoup vont sans doute dire MMX1, mais ça veut dire en fait 2011, tout simplement. Donc on sait qu'Axel Alonso est maintenant éditeur en chef de Marvel, donc c'est pas étonnant qu'il essaye de remonter la franchise et des X-Men et d'essayer de retrouver les heures de gloire passées de la série. Une série de teasers, on voit notamment le teaser pour Uncanny X-Men, c'est peut-être le plus intéressant en fait. Uncanny X-Men, alors je crois que c'est le numéro 540 si je dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais.
Avec Colossus qui au fait adopterait le masque de Juggernaut.
Ouais.
Un peu à la manière d'un cyclope qui deviendrait un espèce de magnéto, peut-être que là, Colossus va devenir Juggernaut. Alors, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une image comme ça pour teaser
Moi, en tout cas, ça m'intrigue. Franchement, ça m'a intrigué d'entrée de jeu. Quand j'ai vu l'image, j'ai fait « Ah ouais,
bah,
tiens. »
je suis pas en fait, moi, je suis pas non quand même tellement fan du mélange des personnages. C'est-à-dire que le scorpion qui devient Venom, j'ai pas trop aimé. Donc Colossus qui vient du Juggernaut, bah.
Après tout, s'il prend le rubis de Sithorak, il aura les pouvoirs, enfin, en quelque sorte, les pouvoirs du Juggernaut, mais il garde aussi son aspect mutant, donc
Ouais, il
un
pourrait devenir
Juggernaut,
une grosse
bah oui,
machine
voilà.
à tuer, quoi.
Voilà, un Juggernaut qui peut en plus se transformer en colosse de métal, voilà, ça risque de faire mal, quoi. À savoir s'il restera du bon côté de la ligne ou pas. Après ça, on sait pas.
Et bon, donc on a aussi un teaser pour X-Force, pour New Mutants, pour
Un
X-Men
teaser
Legacy.
sur X-Force, voilà, avec un retour possible de certains personnages d'Age of Apocalypse.
Peut-être, ouais. En tout cas, des versions
Étrange,
alternatives.
voilà, étrange au sortir de d'Age of X, quand même.
Ouais. Alors, est-ce que ça aura un lien? Je ne crois pas.
Moi, j'ai
Mais
peur que ça amoindrisse un peu l'impact de l'Age of X, car Age of Apocalypse garde quand même une certaine notoriété dans le cœur des fans, et donc revoir des personnages d'Age of Apocalypse risque d'amoindrir peut-être un nouvel univers alternatif qui est développé en ce moment, quoi.
c'est possible. Et un truc aussi, je sais pas si t'as vu le teaser de X-Men Legacy. Pour 2011
Non,
justement
celui-ci, je
pour
l'ai pas vu.
d'accord parce que justement X-Men Legacy donc déjà qu'est-ce qu'on apprend bah Mike Carey on le pensait peut-être sur le départ après Age of X il reste bien sur X-Men Legacy sur la couverture on peut voir Xavier et Magneto donc apparemment dans la même équipe Gambit Rogue donc bon bah en fait ils gardent à peu près les mêmes personnages que depuis le début sur X-Men Legacy mais s'ajoute à la couve Légion et surtout Cargill version Edge of X apparemment. Donc voilà. Est-ce que certains personnages d'Edge of X vont arriver dans X-Men Legacy par la suite? On va voir. Voilà. Donc en tout cas, tout ça c'est intéressant. 2011, peut-être l'année d'X-Men. On verra.
Un effort de relance, même si je ne reste pas forcément super à l'aise avec le choix de cette double équipe, comme à la grande époque des années 90. En tout cas, les doubles équipes, qui suivent chacun, ou non, d'ailleurs, le rêve de Xavier.
Ouais, ben on verra d'ailleurs ce que ça donne et quelles seront vraiment les équipes créatives
J'espère
sur
me
ces séries.
tromper. J'espère me tromper que ce sera très bon, et c'est tout ce que je souhaite à la franchise X-Men, qui depuis très longtemps, a vraiment baissé, quand même.
Oui, en bas de classement comparé aux autres séries, hein, de toute façon, malheureusement. On va partir du côté de Spider-Man. Alors, sur Amazing Spider-Man, à partir du numéro 659, démarre un arc qui va s'appeler Infested.
J'ai vu, ouais.
En avril, et il y a un petit teaser aussi où on parle d'une mystérieuse aussi Spider Island. Donc c'est assez étrange quoi. Et donc la question c'est surtout est-ce que ce sera un teaser, enfin un teaser, un tie-in, pardon, à Fear Itself ou pas, je me demande quand même, vu que ça démarre aussi en avril.
Je sais pas trop, puisque en même temps on a déjà une mini-série tie-in sur Spidey, donc par Christos Engage, si ma mémoire est bonne, donc m'étonnerait qu'il tie-in la série régulière, quoi. Depuis déjà Secret Invasion, on n'a plus vraiment de tie-in Spider-Man. Enfin, Spider-Man, la série elle-même n'est pas tie-in avec les events. Généralement, c'est toujours des petits trucs à côté, quoi.
Ouais, enfin on aura quand même un tie-in avec les 4 Fantastiques, donc raccord avec ce qui se passe dans le titre des Fantastic Four. Donc bon. Mais en tout cas là le teaser est vraiment spécial. Je comprends pas d'ailleurs ce qu'on voit réellement dessus, quoi.
Et on voit que des gens par terre.
D'autres non. Si tu regardes bien,
Ah, j'ai pas fait gaffe.
d'autres sont debout, une espèce de Spider-Woman qui est debout, qui a l'air normal. Bon, je sais pas en fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, bref, de toute façon, on verra bientôt, hein.
C'est dans pas si longtemps que ça, oui.
Alors sinon, peut-être justement, bonne nouvelle pour toi, tu m'en parlais hier hors antenne. Deacon Dark Wolverine, donc jusque-là écrit par Daniel Way, va changer de scénariste. Alors, il va changer de
On ne parlera pas de
scénariste.
notre conversation d'hier soir, du coup.
Non, du coup on n'en parlera pas. Mais
Le rire sous-entend pas mal de choses, je pense.
ouais. Donc à partir du numéro 9.1, au fait, c'est Rob Williams qui va devenir scénariste de Deacon Dark Wolverine.
D'accord. On verra si c'est pour le mieux ou pas.
Bah ouais, écoute, on verra s'il y a du mieux sur cette série qu'on ne suit pas d'ailleurs tellement, hein, Deacon Dark Wolverine.
Pas vraiment.
Non.
Pas du
Voilà.
tout, même.
Oui, pas
Juste
du tout.
quelques petites reviews par-ci par-là.
Mais on verra peut-être si en français on la traite ou pas. Ça dépend où elle est
Si
publiée,
elle
je crois.
sort, déjà. C'est
Je
pas.
pense, ouais, il y a des chances. Peut-être dans les bases d'Asto ou je ne sais pas. Ah bah non, il
Bah,
n'y
je
a plus
sais.
Asto.
Il y a. Ouais, c'est
Oui.
X-Men Universe. Mais
Oui, enfin voilà.
je sais pas, il y a déjà aussi X-23. On verra. On verra s'ils nous les sortent ou pas, quoi. Peut-être dans des 100%. Bon, bref. On en reparle d'ici quelques mois.
Et oui, et puis du coup, on va passer chez DC. Alors, chez DC, c'est Rick Johnson qui nous abreuve de news cette semaine. Donc merci à lui. La petite fouine, là, mais en même temps, il en faut, hein, n'est-ce pas?
L'info.
Qu'est-ce qu'il a dégoté cette semaine? Bah, il a dégoté une rumeur qui voudrait que la ligne First Wave, chez DC, donc, soit tout simplement annulée. Parce que c'est pas suffisamment rentable.
Ouais, j'ai pas l'impression que ça vende beaucoup, quoi. Pourtant, la critique est unanime, mais j'ai pas
Ouais.
l'impression que ça vende beaucoup, quoi.
Et du coup, Doc Savage, et puis
The
aussi
Spirit.
The Spirit, oui, surtout, qui pourrait disparaître. À voir si ça se confirme ou pas, sachant que Rick Johnson, généralement, c'est plutôt juste. Hein, généralement, donc bon. Ça sent mauvais, quoi, en tout cas pour la ligne First Wave. Et aussi, selon Rick Johnson, alors là, ça va peut-être te faire plaisir, ces news-là, il a révélé une news qui te fera peut-être plaisir. Il a révélé quelles seraient les équipes artistiques sur certains tie-in à Flashpoint. Donc, par exemple, sur Flashpoint, Emperor, Aquaman, trois parties, bien sûr. De toute façon, c'est tous en trois parties.
Oui, bah
On aurait Tony Bédard et Ardian Sayaf au dessin.
oui.
Bon, Tony Bédard, pourquoi pas.
Ouais, et puis ça y est, on l'a vu sur la Légion.
Ouais, donc sur Aquaman. Wonder Woman and the Furies serait scénarisé par Dan Abnett et Andy Lanning.
Ah, intéressant.
Voilà, et avec Scott Clark au dessin, donc Iron Man par Abnett et Lanning, ça pourrait être très très intéressant. On va voir ce que ça
Non,
donne.
Wonder Woman, pas Iron Man.
J'ai dit Iron Man? Bon d'accord, donc Wonder Woman, alors du coup.
Lapsus révélateur, monsieur Benny, un lapsus révélateur.
Ouais, mais parce qu'on va en parler sans doute. Et puis on en a déjà parlé en plus. Donc Flashpoint, Lois Lane and the Resistance sera aussi par Abnett et Lanning. Enfin serait aussi, puisque c'est à confirmer. Mais donc Abnett et Lanning sur du Lois Lane, bon bah pourquoi pas. Avec Harvey Toulibao au dessin.
D'accord.
Et enfin, il nous dit que Keith Giffen serait aussi sur un projet post-Flashpoint. Alors maintenant, faut voir quel est ce projet et voilà. Du Keith Giffen, donc à nouveau sur DC.
Oui, bah en fait, il écrit actuellement avec des Matéis Booster Gold.
Ouais.
Voilà. C'est cette équipe-là qui a repris Dan Jurgens après Booster Gold. Je me suis
D'accord.
renseigné depuis la semaine dernière.
Et ben voilà.
Du côté de l'indé, une assez grosse news qui est tombée cette semaine, et dans les semaines précédentes aussi, la ligne Boom Comics Kids, la ligne où il y avait tout ce qui était Disney, entre autres, Disney, Muppets, etc.
Ouais, une ligne très lucrative, donc.
Voilà. Ils ont décidé de changer le nom, ils passent à l'ère Boom 2.0, et donc pour changer ça, la ligne Kids va s'appeler maintenant Kaboom.
D'accord.
Donc voilà, donc déjà premier truc, puisque on sait que Marvel a décidé de lancer un magazine qui s'appelle Disney Pixar Presents, où donc ils vont sortir les histoires de Pixar, et d'ailleurs, Boom a perdu à ce propos la licence Pixar. Donc du coup, les séries Cars, Incredibles et Toy Story vont s'arrêter, et notamment Incredibles qui est en plein milieu d'un arc, mais ça s'arrête comme ça au numéro 16.
D'accord, et ça va chez quelqu'un d'autre ou pour le
Bah,
moment on sait pas.
ça va chez Marvel, puisque c'est Marvel
Ah oui,
qui va
d'accord, du coup
sortir.
c'est Marvel qui récupère tout, d'accord.
Marvel récupère en tout cas les licences Pixar, mais le CEO de Boom, Ross Ritchie, a répondu que toutes les licences Disney ne s'arrêtent pas, puisqu'ils vont continuer ce qu'ils font avec Mickey, Donald Duck, Darkwing Duck, entre autres. Et ils annoncent aussi la future sortie d'un nouveau comic, DuckTales, donc la
D'accord.
série La Bande à Picsou, quoi.
Ouais.
Un espèce de renouveau, mais pour alimenter aussi leur ligne Kids, puisque bah, ils ont quand même perdu des gros titres assez lucratifs, hein, tous les titres Pixar, ils ont récupéré des nouvelles licences, et notamment la licence Peanuts,
Ah,
donc
bah
la
oui.
licence de Snoopy, quoi. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez important, puisque les intégrales Snoopy sont publiées par Fantagraphics aux États-Unis. Donc à savoir si elles vont continuer à sortir chez Fantagraphics ou si c'est Boom qui va maintenant les publier, pour le moment on n'en sait pas plus. Et est-ce que Boom travaillerait à des nouvelles versions de Peanuts en bande dessinée? Et là ce serait quand même quelque chose d'assez énorme, puisque depuis la mort de Charles Schulz, le créateur de Peanuts, eh ben, il n'y avait plus du tout de Snoopy. Rappelles-tu de strip de peanuts.
Peanuts de peanuts, quoi, justement.
Waouh, magnifique.
Ah, formidable. Extraordinaire. Et non, mais moi, j'allais dire aussi que, par contre, on le rappelle, hein, on a une petite galerie qui s'agrandit.
Oui, c'est vrai, tu fais bien de le peanuts. Rappeler. Je n'y pensais pas.
Oui, justement, il n'y a plus de peanuts, mais sur Comic City, il y en a même pas mal. Donc, venez voir notre petite galerie par différents auteurs, par différents dessinateurs de comics. Il y a des résultats assez intéressants, d'ailleurs.
Oui, effectivement, oui.
Donc voilà, et d'ailleurs on est très contents parce qu'on est les seuls à le faire, et c'était une initiative de Claire, très bonne initiative d'ailleurs.
Oui, bravo. Et puis cette news lui fait sûrement plaisir, puisque
en grand. Oui, en plus, puisqu'elle est fan de Peanuts, et elle va sans doute acheter d'ailleurs du Peanuts du coup chez Kaboom.
Mais oui, donc on verra s'il va y avoir des nouveaux comics de Peanuts ou pas, ou est-ce qu'ils vont simplement récupérer les intégrales. L'avenir nous le dira. En revanche, une petite ombre pointe au tableau, il en faut bien une. Rob Liefeld a décidé de porter plainte par rapport au nom Kaboom, puisque Kaboom était un personnage qu'il avait créé avec Jeff Matsuda.
Exactement, dont je te parlais hier, justement, ou avant-hier, je sais plus, en antenne, en te disant, mais c'était le nom d'une série. Et donc, il vient de porter plainte, d'accord.
Il vient de porter plainte parce que trop de similarités au niveau du nom.
Oui.
Donc on verra ce que ça va donner, est-ce que la ligne va changer. Moi, pour moi, ils auraient mieux fait de l'appeler K-Boom. Pour Kids Boom, tu vois, plutôt qu'écrire Kaboom, K-A-B-O-O-M. Enfin bon, après.
Ou Boomka. Boomka.
Ouais, Boomka, c'est moche, quoi.
Oui, c'est moche. Ou Boomkins.
Bah, Boomkins, ils auraient pas changé de nom.
Mais pourquoi changer de nom, d'ailleurs?
Bah, parce que c'est Boom 2.0, puisque depuis le départ de Mark Waid, en tant que CEO de l'équipe, enfin de la compagnie, il y a un renouveau à lancer, quoi.
Ou Kids Boom.
Ouais. Non, mais moi, pour moi, K avec tiré, Kaboom, c'était pas mal, quoi. Ils sauraient peut-être pas attirer les foudres de Rob Liefeld, qui cherche peut-être à se faire de l'argent. Et uniquement ça.
Oh, tiens, ce serait étonnant.
Parce que
ça.
Dire qu'il y a trop de similarités avec son personnage. Le dernier numéro sorti du personnage date de 1997 ou 98. Je veux dire.
Surtout que Rob Liefeld n'a pas besoin de ça, hein. Il est tellement actif, il fait tellement de bons trucs en ce moment.
Qui s'en rappelle encore, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les lecteurs d'aujourd'hui,
il fait du Deadpool.
Ouais.
Du Deadpool corps.
Magnifique. Voilà. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette affaire, on verra si la plainte aboutit, si Boom doit changer de nom, si la plainte sera abandonnée, si Rob Liefeld arrivera à se faire de l'argent sur le dos de Boom.
Ouais. Et si Kaboom ou Boom Kids nous contacte un jour pour nous dire, oh dis donc, votre galerie Peanuts, elle est géniale.
Oui, peut-être, c'est tout. Ah. C'est tout jamais.
Ah. On peut rêver.
On peut rêver, on a le droit. Une relativement bonne nouvelle, notamment avec cette arrivée de Peanuts. Il y a d'autres propriétés, d'autres licences qui sont arrivées aussi chez Boom, mais c'est des licences que je ne connais pas forcément, donc je ne vais pas forcément parler. On peut citer Langridge, moi ça me dit rien du tout.
Bon, je pose mon joker aussi. Bon, et c'est tout, d'ailleurs, c'est tout pour les news de cette semaine.
Bah c'est tout, il nous reste quand même la grosse news de la semaine. Chez DC principalement, mais ces derniers temps en tout cas, mais chez Marvel, c'est le décès de Dwayne McDuffie.
Oh putain, en plus, oui. Oui.
T'as oublié d'en parler, c'est ça?
Oui, j'allais complètement oublier d'en parler. D'ailleurs, peut-être aurions-nous dû commencer par ça. D'ailleurs, en plus, tu me disais chez DC, je voyais pas trop le... Oui, d'accord. Donc, Dwayne McDuffie, malheureusement, est décédé cette semaine.
Dwayne McDuffie, c'est quand même... Il est principalement connu pour l'univers Milestone chez DC, qu'il a complètement créé. Lancé au milieu des années 90, enfin même début des années 90, puisque c'est 92-93.
Oui, alors c'était le Black Power hein, chez DC, en fait, c'est ça hein.
Ouais, en quelque sorte. Enfin, c'était surtout un univers tourné vers les minorités, où la plupart des super-héros étaient blacks, mais pas que. Il y avait aussi des Asiates, ce genre de choses.
D'accord. Donc,
c'était vraiment principalement sur des minorités, avec un collectif avec lequel il travaillait, qui était aussi des minorités.
D'accord.
Des gens comme John Paul Leon, etc., qui sont tous blacks eux aussi, quoi. Puis bon, voilà, il avait réussi à réimplanter l'univers Milestone chez DC, notamment grâce à Justice League. On se rappelle de l'arc hyper long, voilà. Bon, il avait aussi écrit du Fantastic Four chez Marvel, notamment.
Des épisodes très bons, d'ailleurs. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé, et c'était un petit peu la période creuse, malheureusement, des 4 Fantastiques, avant que Miller Hitch relance la franchise. Et du coup, beaucoup n'ont peut-être pas lu ces épisodes qui étaient très sympathiques, je trouve.
Chez Marvel toujours, il avait aussi écrit des choses comme Deathlock, qu'a-t-il écrit sur quelques numéros d'Avengers Spotlight. Il a surtout aussi créé et écrit les séries Damage Control dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. C'était cette espèce d'équipe qui se chargeait de passer derrière les super-héros après la
première oui, oui.
super-vilain et qui devait reconstruire.
Ouais. Et tu m'avais dit que tu avais trouvé aussi des petits trucs marrants, par exemple.
Ouais, alors notamment il a écrit deux épisodes d'Iron Man pendant Acts of Vengeance en 89. Je pensais pas qu'il écrivait déjà à cette époque-là.
Ouais.
Mais il a aussi écrit du nanar hein, quand même chez Marvel, et notamment j'ai trouvé du plus bel effet, le Double Dragon, l'adaptation du jeu vidéo chez Marvel.
Quand même. D'accord.
Voilà, de 91.
Il y a du faire plaisir
ça.
Alors.
Ça, 6 épisodes seulement.
Ouais, et alors on en a parlé pas mal aussi dans les Comic City récemment, puisqu'il avait fait les derniers épisodes de la Justice League.
Oui, c'est lui qui avait fait pas mal le run, bah, il a fait 20 épisodes à peu près sur la Justice League.
Et on se disait qu'effectivement il avait eu un petit peu les mains liées et qu'il avait pas forcément fait au fait tout ce qu'il avait eu envie de faire sur la série.
Il s'est fait débarquer comme une merde, faut le dire clairement. Il s'est fait débarquer comme une merde puisqu'il a dit que DC contrôlait un petit peu ce qu'il devait écrire et ça n'a pas plu à DC. Donc DC l'a viré, tout simplement.
Voilà.
Ils lui ont quand même laissé relancer son univers Milestone. J'espère que son univers Milestone marchera.
Ouais.
Marchera. Je pense que ça marchera, en tout cas les débuts marcheront en sa mémoire. Après, espérons que ça tienne un peu. Là où c'est le plus triste, je trouve, c'est qu'il était le scénariste du dernier film d'animation DC qui vient de sortir. Il est sorti malheureusement le jour de sa mort, All-Star Superman.
Ouais.
L'adaptation de l'histoire de Grant Morrison en long métrage. Et donc, il pourra pas voir si son projet a eu du succès ou non, quoi.
Ouais.
Je trouve ça dommage.
Ouais, c'est tragique, effectivement. Et puis, ce qui est dommage, c'est de penser que, ben voilà, il nous racontera plus d'histoire et il avait peut-être encore beaucoup de choses à écrire, à montrer, beaucoup encore d'idées à partager. Et voilà, en plus ce qui est dommage, c'est de passer ces dernières années sur un titre sur lequel il avait un petit peu les mains liées. Et comme tu disais, hein, il s'était fait débarquer, mais c'était pas de son fait, c'était vraiment l'équipe éditoriale qui a.
Oui, et puis faut être honnête, faut dire son run était relativement pas bon, quoi.
Bah oui,
bon,
puisque
à cause des pressions éditoriales, bien évidemment, ouais. Mais enfin son run était assez chiant, quoi. On l'a chroniqué en long, en large et en travers dans les Comic City. Voilà.
Mais alors,
moi, je me rappelle que d'un épisode, il y a un épisode que je me rappelle, c'est ce fameux épisode entre Flash et Wonder Woman face à Kunbi, quoi. C'est l'épisode marquant de son run, pour moi.
Ouais. Et par contre, on se souviendra de lui pour, comme tu disais, son travail sur les adaptations.
Oui, parce qu'il a écrit aussi pour Justice League Unlimited, pour...
Static Shock, non ?
Static, ouais. Oui, puisque Static était un personnage de l'univers Milestone. Mm-hmm. Puis il avait écrit le dessin animé.
Ouais.
Du coup, non, il y a beaucoup de choses, quoi. Il avait fait
Et je crois qu'il avait fait donc le scénario du long métrage qu'on avait chroniqué dans un spécial. Si je dis pas de bêtises, alors je sais plus quel était le titre en plus.
C'était le
Justice League. Legion of Two Worlds, non? C'était pas ça? Ah non.
Non, c'était The Crisis on Two Worlds.
Voilà, Crisis on Two Worlds. qui était vraiment pas mal. Donc, comme quoi, hein, quand on lui laissait faire ce qu'il aimait, il était capable de faire de bonnes choses et c'est d'autant plus dommage, quoi.
Voilà. Donc, bah, comme on dit, RIP, quoi.
Ouais, RIP, et puis voilà, ce serait bien que All-Star Superman sorte en DVD en français, je pense que ça arrivera.
Oui, puisque les dessins animés français, les dessins animés DC ont commencé à sortir en France. Mmh. Il y en a eu quelques-uns, donc je pense que celui-ci sortira peut-être.
Voilà, à découvrir très bientôt, et pour mieux connaître ce qu'était capable de faire Dwayne McDuffie, ce qu'il pouvait apporter à l'industrie, quoi.
Voilà. Bien. Bon. Bon, bah, on va essayer de remonter l'ambiance.
Oui, 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 on va essayer de réchauffer tout ça.
On va essayer de pump it up, quoi. Comme
ouais.
On dit. Allez, on passe à la double review. ça va être dur, ça va être dur de repartir. X-Men Legacy numéro 245. Première partie de Age of X. Normal que ce soit donc en double review, puisque bon, on l'attendait, hein, quand même.
Ouais.
Au scénario, Mike Carey. Au dessin, Clayman. À l'ancrage, Jay Layston. Bon, alors, on va essayer de résumer. C'est pas facile.
Ouais.
Peut-être avez-vous lu le Age of X Alpha qui est sorti le mois dernier.
Ou pas.
Ou l'avez-vous pas lu peut-être.
Oui, parce que c'est mon cas, donc tu m'éclaireras si jamais.
Il n'est Franchement, il n'est pas nécessaire vraiment à la lecture, on peut très bien comprendre sans. C'est vraiment un petit bonus, quoi. C'est des bonus sur les personnages que vous pouvez croiser dans Age of X. Donc, pas besoin
De toute façon, pour
de l'avoir
résumer
lu pour comprendre.
clairement, l'intrigue, c'est un univers parallèle.
Voilà, on est débarqué en plein milieu et on comprend pas ce qui se passe et on a les pièces du puzzle qui se mettent en place petit à petit. C'est comme ça que l'a voulu Mike Carey et je trouve que c'est une très bonne idée. On découvre, on fait ses propres théories, on essaie de comprendre et pour moi ça marche bien comme ça.
Ouais.
Je pense que si on nous avait détaillé tout l'univers dès le départ, ça aurait été chiant.
Mais certains diront que c'est un univers parallèle de plus.
Oui, bah bien sûr, oui. Et puis on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec Age of Apocalypse, déjà ne serait-ce que par rapport au titre.
Mais moi, je ferais même la comparaison avec autre chose, un truc que t'as pas aimé, c'est justement la version de Wonder Woman par Straczynski, puisque c'était vraiment le même principe. C'est-à-dire qu'on te sert un univers parallèle sans t'expliquer le pourquoi du comment, et tu le découvres au fur et à mesure.
Ou à House of M,
Ouais.
pour rester chez Marvel.
Donc tout le monde ne va pas forcément accrocher à ce principe, quoi. C'est-à-dire que beaucoup vont dire bah oui, mais on a déjà eu ça dans des What If ou dans Les Exilés, etc. Et pourtant, moi je suis assez fan, hein, de toute façon, de ce type de récit, quoi, en général.
Bien, on va voir, parce que je pense, enfin, pour qu'il y ait un intérêt quand même, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort dans la continuité principale. Sinon, pourquoi le faire dans des séries régulières? Autant le faire dans des mini-séries à ce moment-là. Donc, faut espérer qu'il y ait quelque chose qui en revienne dans la continuité classique. Après, faut pas que ce soit pourri. Rappelle-toi, Age of X, on avait quand même l'arrivée de quatre personnages qui ont maintenant quasiment tous disparu, mais qui à l'époque avaient amené pas mal d'histoires, quoi. Puis notamment X-Men, quand même, qui avait sa propre série, qui a duré 75 épisodes. Ben voilà, il y
Oui, et
a eu de la
puis les
matière, quoi.
exilés, en partie.
Oui, aussi, oui, en partie, oui, puisque après on a réutilisé d'autres trucs, mais voilà, il y avait quelque chose. On va essayer de résumer un peu l'histoire. On est en plein conflit entre la race mutante et la race humaine. Le truc, c'est que là, cette fois-ci, c'est plutôt la race humaine qui a gagné. Les
Ouais.
mutants sont exécutés. On ne comprend pas très bien pourquoi. Dans le Alpha, alors je ne sais plus trop si ça avait été dit dans cet épisode 245, parce que je les ai lus back to back, donc j'ai un peu tendance à confondre. Mais on nous parle principalement d'un accident avec le Phénix qui aurait dévoré Albany. Donc voilà.
Ah oui, peut-être, oui. Je sais plus si c'est clairement dit là dans le
Donc,
245.
c'est ce qui aurait fait basculer les choses. Bon, les choses avaient dérapé un peu avant, mais c'est vraiment ce qui a fait basculer les choses. Les mutants donc sont traqués, tués. Bon, ça on est habitué, mais là cette fois-ci ils sont quand même tués sans ménagement. Et bah, Magneto s'est chargé de former une espèce de coalition de mutants. Il les a mis dans une espèce d'endroit où il y a une espèce de champ de force qui les protège. Et il appelle cet endroit la forteresse X. C'est
D'accord.
vraiment Utopia. C'est Utopia, mais en zone de guerre, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que Mike Carré reprend les idées de la continuité actuelle en les faisant diverger dans sa réalité parallèle.
Ouais.
On a des personnages comme Danger que l'on voit passer,
Oui.
qui ont un rôle. C'est vraiment, quand on voit par exemple Rogue dans cet épisode, elle a clairement l'identité de Rogue que Mike Carré lui a donnée à travers X-Men Legacy, avec
Mais
son changement de pouvoir, etc.
on voit qu'il utilise quand même des personnages qu'il aime bien, quoi. C'est-à-dire que, comme par hasard, j'ai envie de te dire, les personnages survivants sont quand même pour la plupart ceux qu'il aime utiliser et écrire dans X-Men Legacy d'habitude.
Ah bah on a énormément de personnages, hein, de toute façon.
Ouais,
Ce qui est
beaucoup.
assez intéressant, c'est d'essayer de se dire, mais tiens, qui c'est, quoi? Parce qu'il y a un énorme effort de fait sur les costumes.
Ouais. Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont très reconnaissables. Malicia, tu la reconnais du premier coup d'œil. Enfin, Rogue, je devrais dire. Puisqu'on est en
Rogue
VO. Et.
qui a un rôle super particulier.
Oui, qui a un rôle particulier, c'est vrai.
Intéressant, mais notamment grâce à son changement de pouvoir
Et
sous la plume
puis.
à Écarré.
Et puis, on retrouve Cyclope, qui ne s'appelle pas Cyclope, du coup.
Qui s'appelle Basilisk. On avait eu quelques infos sur lui dans le Alpha. Bon, pour ceux qui l'auraient pas lu, c'est tout simplement il était enfermé en prison dans Alcatraz en fait, qui était géré par Arcade. Et Arcade se servait de lui pour exécuter les mutants contre son gré, bien évidemment. Il ouvrait sa visière et du coup Cyclope n'avait d'autre choix que ses rayons sortent, quoi. Puisque c'est Cyclope, hein, tout simplement, c'est Scott Summers. À savoir qu'il lui a aussi coupé les paupières pour pas qu'il puisse fermer les yeux.
Oui, du coup, il porte un espèce de masque. Et là, il y a un conflit d'ailleurs qui éclate entre Basilic et Rocket. Et ça fait toute une sacrée salade.
Oh là là, putain la vanne, oh la vache.
Je m'applaudis là. Je dis monsieur.
Monsieur, on est béni.
Oui, voilà.
Oui, alors, C'est très compliqué de résumer parce que, grosso
Surtout dans
modo,
ces conditions.
on arrive vraiment dans une zone de guerre. Les mutants attaquent, enfin, plutôt sont attaqués par les humains et ils répondent, et ils se défendent et ils tuent. Les mutants tuent dans cet univers-là. Et celui qui coordonne les attaques, donc on a Magneto qui s'appelait le général, qui est vraiment le chef, mais celui qui coordonne les attaques sur le terrain, c'est Sam Guthrie, donc Rocket,
Enquête.
Cannonball en anglais. C'est vraiment lui le field leader, quoi. Et donc tout le monde est assis dans. C'est pas Scott Summers cette fois-ci
Oui,
qui est chef.
c'est vrai, ça change un peu.
Ça change un peu, mais justement, Mike Carey réutilise un petit peu ce qu'on avait dans New Mutants, où on avait Rocket en chef d'équipe, quoi. Et comme New Mutants fait partie du crossover Age of X, je pense
Forcément.
que voilà. Et bon bah,
Et d'ailleurs, je suis en train de me
Cannonball
demander
a
si.
toujours dirigé l'équipe des New Mutants quasiment, donc.
Oui, et j'étais en train de me demander si justement X-Men Legacy par la suite n'allait pas être tout simplement avec ces personnages de Age of X, puisque finalement Gambit, Magneto, Rogue, ils ont quand même la même tête que leur version présente.
Ben on verra, je sais pas trop quoi. On a des histoires d'amour aussi entre certains personnages. Ben on a justement Basilic qui est avec Jonah Cargill, donc Frenzy, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Qui est autrement plus intéressante et peut-être un peu plus sexy que sa version qu'on connaît de la version 616, quoi.
On a Iceman avec Psylocke.
Ouais.
Ben voilà, on a des couples qui sont des couples différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a pas mal d'idées intéressantes. C'est qu'une première partie, c'est assez difficile pour dire si c'est vraiment bien ou si c'est pourri. En tout cas, moi, ça m'intrigue énormément. Je trouve ça vraiment sympathique. On a un petit truc à la fin qui lance vraiment l'histoire. Kitty Pryde s'échappe. Elle était enfermée. Elle faisait partie des mutants qui sont trop instables, selon Magneto. Et elle s'échappe. Elle était sortie de ce champ de force qui les protège. Et elle ramène un objet, une petite caméra, que Rogue trouve, et quand elle regarde, enfin une caméra, un appareil photo, excuse, pardon, c'est le problème de traduction. Quand elle regarde cet appareil photo, elle découvre quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? On verra bien dans les prochaines parties. Moi, franchement, pour le moment, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'idées assez intéressantes à voir ce qu'il va en faire, donc pour moi, c'est un bail.
Très bien, bah écoute, pour moi aussi, hein, je pense que voilà, faut.
C'est super décousu comme review, mais c'est très difficile puisqu'on tombe en plein milieu du conflit. On est vraiment mis là-dedans et à nous nous démerder. Et pour une fois, on ne prend pas le lecteur pour un con. Et ça, c'est agréable aussi.
C'est vrai.
À toi de te faire tes propres conclusions, à comprendre toi-même. Et puis les prochaines parties vont nous éclairer petit à petit, hein, c'est normal. Mais voilà, enfin, je trouve ça bien,
Mais
quoi.
enfin, moi je trouve ça surprenant en fait que tu aimes ce principe alors que tu l'as tant détesté sur Wonder Woman.
Peut-être parce que là, ce sont des personnages que je connais depuis des années et que dans Wonder Woman, en fait, là, d'entrée de jeu, on nous a dit c'est un univers parallèle.
Oui,
Il y a
mais
ça qui joue. Alors que dans Wonder Woman, on
ah bah
savait même
si,
pas.
on te le dit. On te le dit dans la postface de Straczynski quand même. Il le dit clairement.
Oui, mais qu'advient-il de Wonder Woman pendant ce temps-là, dans le DC-verse? Et puis là.
Ah bah oui, mais
C'est là
là
que ça va.
aussi, on ne
Enfin.
sait pas ce que deviennent les l'équipe.
Ah non, mais ça se passe, ça, c'est pas, c'est dans un monde parallèle, complètement. Ça, je veux dire, ça n'a aucun lien avec la continuité pour le moment.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Je veux dire, les personnages de Rogue, de Magneto, etc., sont toujours dans la continuité dans les autres séries. On n'a pas enlevé ces personnages de la continuité, tu vois. C'est
Ouais.
ça, moi, c'est ça principalement qui me gêne avec Wonder Woman.
D'accord.
Donc voilà, c'est pour ça que j'apprécie un peu plus.
Ce qui sera sans doute d'ailleurs totalement expliqué dans Flashpoint.
On verra. On verra où ça va aller, quoi. En tout cas, bon, un bail. Un bail, franchement, si vous voulez lire du X-Men différent, peut-être que ça n'aura aucune conséquence sur la continuité. Mais en tout cas, si vous voulez lire du X-Men différent, du X-Men qui rentre dedans aussi, et puis dense, parce qu'il y a de la lecture, hein. On lit pas en 5 minutes celui-ci. Bah, faites-vous plaisir. Moi, je dis faites-vous plaisir et allez voir le premier épisode des Jeux Fix, ça vous permettra de juger si ça vous intéresse ou non. Moi, je trouve ça intriguant. Après tout, c'est ce qu'on demande, hein. Avoir envie de retourner voir la suite.
Exactement. Quoi dire de plus? Passons
Ok,
à la
alors,
suite.
on
C'est qui
passe
commence d'ailleurs cette
au
semaine du
review
coup?
solo, c'est moi, puisque c'est un numéro
Ah bon
impair.
bah alors vas-y.
Alors, on va passer chez DC cette fois-ci avec Action Comics numéro 898. Paul Cornell au scénario, Pete Woods au dessin, c'est la 9e partie de l'arc qui s'appelle The Black Ring, je crois.
Ça doit être ça.
Donc, moi je n'ai pas lu Action Comics hormis le premier épisode avec Lex Luthor, j'ai pas suivi la suite, je me dis je me ferai ça en trade, ben, j'ai été largué. Totalement. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci, c'est parce que c'est Lex Luthor versus Larflees.
L'Arflis, oui.
Donc forcément, ça m'a intéressé, quoi. Eh ben, grosse, grosse, grosse déception. Premièrement, je n'ai rien compris. Alors, encore heureux que j'avais eu quelques-unes de tes reviews pour essayer de me donner un petit point dans l'histoire, savoir à peu près ce qui s'était passé, mais j'ai rien pigé. Alors Luthor essaye de faire des trucs avec des sphères, j'ai rien compris. Apparemment, il enferme des gens dedans, il veut tirer du pouvoir, il a envoyé certaines sphères dans l'espace, il y en a qui ont été détruites, il y en avait 9, mais alors, il en reste 4 qui sont dans l'espace, il veut modifier des trucs à l'intérieur, directement dans l'espace et tout en même temps. J'ai rien bité. Franchement, c'était totalement impénétrable pour moi.
D'accord, parce que moi j'ai loupé des numéros du coup, et en tout cas ceux que j'ai lus étaient compréhensibles, mais en même temps toute l'histoire des fameuses sphères n'était pas forcément très abordée dans ces numéros-là, et puis surtout on ne connaissait pas encore tous les tenants et les aboutissants de son plan, donc là il a dû se passer des choses entre-temps, quoi.
Bah, alors, il y a Larflees qui arrive, qui veut en découdre un petit peu avec Lex Luthor, parce qu'il veut, en gros, il a trouvé une de ces espèces de sphères noires. Alors, si j'ai bien compris, ce serait des sphères d'énergie noire, qui tirent, enfin, qui viennent de la force noire des Green Lanterns, quoi, les Black Rings, quoi. Larflees en a trouvé une, et du coup, il a demandé à Glomulus, l'espèce de petit glouton qui l'accompagne toujours, de la bouffer, quoi. Et il veut que Luthor lui montre comment on s'en sert. Et bien sûr, Luthor veut qu'une chose, c'est la récupérer. Donc s'engage un combat entre les deux. Combat qui est très vite
La manger comme des
expédié.
onion rings, quoi.
Ouais, voilà, mais c'est ça, il l'a bouffé, quoi, il l'a avalé. Alors, le combat est vite expédié. De combat, il n'y en a pas réellement, finalement. Il n'y a pas une grosse empoignade entre les deux. En plus, je dois avouer que le Larflees dessiné par Pete Woods est imbuvable. Franchement, ça me plaît pas du tout. On est
D'accord.
habitué à un certain standing, une certaine image de Larflees, et là, c'est pas du tout la même gueule qu'il a. Et moi, ça m'a franchement déstabilisé, quoi. Bon, voilà. On a Loïs, le robot Loïs.
Oui.
On voit qu'elle aide Lex Luthor, mais elle a un autre plan derrière. Et sur la dernière page, on voit pour qui elle travaille vraiment. Et là,
Ah,
par
d'accord.
contre, ça, c'est un choc. Ça, c'est un choc. Voilà. C'est
Je
très
alors.
intéressant. C'est pour moi la chose la plus intéressante du numéro, hein.
Je peux faire un guess?
Tu peux, mais je ne dirais pas forcément si c'est vrai ou pas.
Darkseid?
Peut-être ou peut-être pas.
Peut-être ou peut-être pas, très bien.
En même temps, rappelle-toi, Darkseid est mort.
Ah bah oui. Mais justement, il revient.
Donc voilà. Quoi d'autre? Eh ben, il réussit à enfermer Larflees dans une des sphères, mais Larflees s'échappe et Larflees trouve une chose qu'il ne veut pas. Apparemment, il ne veut pas. Il se demande comment on peut arriver à concevoir un plan comme ça. Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Lui, maître de l'avarice. Voilà.
L'avarice en un mot.
Oui ou en deux, comme tu
Enfin, en deux, apostrophe, quoi.
veux. Oui, comme tu veux. Tu peux l'écrire des deux façons. C'est drôle aussi. Bref, bah pour moi, c'est un pass.
D'accord.
Totalement un pass. Si vous avez rien, si vous n'avez pas lu Action Comics, prenez pas celui-ci, quoi. Moi, franchement, je regrette mon achat. Vraiment.
D'accord. Mais c'est dommage, parce que d'habitude, la série est bonne, mais en même temps, il peut se planter sur un
Oui,
épisode.
on a le droit de se planter sur un épisode, c'est juste c'est tombé sur celui que j'ai pris, tant pis quoi. Peut-être était-il pas à même de gérer Larflees correctement. Moi je l'ai trouvé à peu près dans le personnage, mais un peu trop bavard peut-être. Mais
D'accord.
il y a quand même une chose très intéressante dans ce numéro, mais vous pouvez le trouver dans les autres numéros d'essai, c'est le preview de War of the Green Lanterns, qui a
Ah,
l'air
d'accord.
très sympathique. Voilà, c'est tout. J'arrête la main You, puisque ça fait trop longtemps pour un pass.
Oui, mais j'allais
Rien qui
juste
se perd.
dire que en général, c'est une bonne série et je la conseille en trade.
Mais ouais, mais là, franchement, lisez les autres parties avant, parce que...
Parce que le run de avec Lex Luthor dans Action Comics, le rôle de Paul Cornell, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises.
Paul Cornell, oui.
Et plutôt bon, hein, bon, là, visiblement, c'est un raté, mais je pense que le reste vaut largement le détour.
Le prochain épisode risque d'être intéressant, en tout cas au vu de la révélation finale.
Bon, bah très bien, bah, c'est ce qui compte déjà. Allez, on va passer à ma première review solo, Captain America 615. Le scénario est d'Ed Brubaker, bien entendu, et les dessins de Butch Gis. C'est la première fois d'ailleurs qu'on parle de Captain America,
Dans le
enfin la
multi.
série Captain America dans Comics Weekly.
Oui.
Et oui, il aura fallu attendre 39 numéros. En même temps, on la traite dans les Comic City, forcément, hein, puisque la série est publiée dans Marvel Icons.
Enfin, quand elle sort.
Quand elle sort.
Parce qu'il commence à y avoir un sacré paquet de retard.
C'est vrai, pas mal de retard, numéro
Plus un
615.
épisode qui manque. Plus un épisode qui manque quand même.
Ah oui, un épisode qu'on n'a jamais eu. Et donc là, bah au fait, c'est la dernière partie d'un arc en 5 qui s'appelait donc le jugement de Bucky Barnes, si je ne me trompe pas. Non, d'ailleurs le jugement de Captain America, puisque Captain America et Bucky Barnes. Donc en fait, pour te resituer le cœur du problème, il est mis en procès parce que parce que au fait, il est accusé de crimes qu'il aurait commis en tant que Winter Soldier à l'époque où il était manipulé. Donc jusque-là, rien de bien nouveau puisque enfin le problème c'est toujours le même, c'est que on te parle de l'époque où il était Winter Soldier. Et du coup, ça renvoie toujours le personnage à la case de Winter Soldier. C'est toujours ce qui est un peu énervant. Par contre, ce qui était plus intéressant, c'est que le Baron Zemo est de retour.
Depuis un petit moment déjà.
Voilà. Et qui traîne dans la boue encore plus le Winter Soldier en faisant des révélations publiques sur son passé. Ce qui n'arrange pas les choses. Et de surcroît, Red Skull est de retour, mais alors en fait, c'est pas Red Skull classique, c'est sa fille, Sin, qui s'échappe grâce à Masterman, qui est de retour également, donc tu l'auras compris. Et au fait, Sin a bien changé, puisqu'elle devient une espèce de nouvelle Red Skull depuis Captain America Reborn. Et alors là, au fait, en gros, elle demande à ce que Bucky se rende, sinon elle fait péter la Statue de la Liberté avec dedans Falcon et Black Widow.
Ouais, donc elle a quand même un bon moyen de pression, quoi.
Voilà. Donc là, on assiste à la bataille. Bucky met vraiment en péril son procès en s'enfuyant, quoi. Avec l'aide de Captain America et, enfin, avec l'aide de Steve Rogers, devrais-je dire, et Sharon Carter. Et du coup, voilà, il met vraiment en péril son procès puisque, normalement, eh bien, il devait complètement abandonner le temps de son procès ses activités de super-héros. Et là, justement, il enfreint totalement les règles en s'échappant pour aller à la rescousse de Black Widow et Falcon. Donc la bagarre est plutôt sympa. La fin de cette confrontation est assez surprenante. Et ensuite, eh ben, est-ce que il va pouvoir retourner à son procès et être jugé sans qu'il y ait encore de retournement de situation et de problème? Eh bien, à voir dans ce numéro, je peux pas vraiment dire plus, puisque voilà, sinon je révélerai l'issue du combat. Toujours est-il qu'il y a pas mal de twists. Franchement, dernièrement, la revue Captain America, enfin le comics Captain America, est vraiment retourné sur de bonnes bases, quoi.
D'accord.
Voilà,
Bah, c'est intéressant de savoir.
Brubaker écrit à nouveau du Captain America intéressant et ça fait plaisir. Juste un truc pour terminer, il y avait un tie-in Nomade.
Oui, un backup, tu veux dire.
Oui, t'as raison, un backup nomade.
Bah, comme il y a depuis très longtemps dans les
Voilà.
Captain America.
Par Sean McKeever et Pépé Larraz au dessin. Alors je crois que ça se dit Pépé, hein, j'imagine. Et écoute, pas grand-chose à en dire. Hein. Elle est dans le. Elle au fait, elle accepte de faire partie du monde réel, enfin l'univers 616 on va dire, mais voilà, bon, elle affronte des espèces de junkies, bon, c'est pas super passionnant quoi.
D'accord.
Sachant qu'on la retrouve dans le fameux Onslaught Unleashed.
Puis qu'on la retrouvera sûrement dans le tie-in à Fear Itself, Young, je sais pas quoi, Young Sin Revolt.
Oui,
Puisque je crois qu'il est écrit par Sean McKeever.
d'accord. Bon,
De
bah écoute.
mémoire. De mémoire, hein, j'ai peut-être une connerie.
Bon, bah c'est pas grave. En tout cas.
Ce sera pas la première remarque.
Oui,
Ni la dernière d'ailleurs.
certainement.
Salaud, enfonce-moi.
Ouais, voilà. C'est un
Et c'est
bail.
pas sexuel.
C'est un bail. Et puis voilà.
On a parfait. Parfait. Bon, bah, du bon Captain America à venir,
Bon
c'est
Captain
toujours bien.
America, un bon arc. Un bon arc. Et le prochain promet aussi également.
Ok. Bon. Bah, on va rester chez Marvel. On va rester dans la franchise Avengers. Et on va rester dans la Sainte Trinité Avengers avec nouveau numéro 1, Iron Man 2.0.
Ah
Alors,
oui,
ça
bah
devient
voilà.
compliqué. Ça devient compliqué, puisque entre le Iron Man 500.1 et le Iron Man 2.0,
Oui, alors
qu'est-ce que ça va faire
pour un nouveau
bientôt?
lecteur qui essaye justement de s'intéresser à Iron Man, C'est l'effet inverse, quoi. C'est-à-dire que normalement, les points 1 sont là pour aider les nouveaux lecteurs, mais quand on voit sur les étalages un 500 points, puis un 2.0, puis un 3.50 sur une autre série, voilà, ça devient
Là,
compliqué.
où ça va être drôle, ça va être quand même ridicule, c'est quand il va falloir dire Iron Man 2.0 numéro 5.1.
Ouais.
Là, ça risque d'être sacrément ridicule. Moi, je dis 5.1, ce sera peut-être le 4, ce sera peut-être le 8, j'en sais rien, il n'y en a pas encore de prévu, mais voilà. Bon, par contre, au scénario, on retrouve Nick Spencer. Donc
Ouais.
voilà,
Donc,
valeur relativement sûre.
oui,
Voilà,
valeur montante, on va dire.
on en parle assez dans Comics Weekly. Et au dessin, Barry Kitson.
D'accord. Alors, c'est la team est plutôt sympathique.
Plutôt agréable.
Et au dessin, Steve, il y a aussi Di Giandomenico que tu as oublié de citer, qui assure certaines pages.
Ah oui, effectivement. Effectivement, j'avais oublié de noter dans mes crédits, désolé.
Alors, certaines pages de
Pardon,
dialogue.
pardon Carmine, désolé. Bref, alors, le scénario. Ça commence sur une scène d'introduction de combat entre Iron Man et Blizzard, qui est de retour. Et War Machine, donc James Rhodes, vient lui prêter main forte. Car oui, cette série Iron Man 2.0 est sur War Machine, mais le titre War Machine ne fait pas vendre. Donc on a mis Iron Man 2.0, car Iron Man, ça vend. Voilà.
Voilà,
Quelle technique.
même si c'est du War Machine.
Même si c'est du War Machine, en fait. Bon, il s'avère en fait que Blizzard est un robot, puisque le vrai Blizzard est mort depuis longtemps. D'ailleurs, avec une petite explication de pourquoi ce robot vient attaquer constamment, assez sympathique. Je vous laisse la découvrir, c'est sympathique, je vais pas la révéler là. Ça n'a aucun intérêt dans l'histoire vraiment, donc voilà, petite surprise à découvrir. Rhodes, lui, est envoyé pour travailler dans une base militaire, car après l'arc où Stark a refusé de faire des contrats pour le gouvernement, il s'est bien rendu compte que si c'est pas lui qui le fait, il y aura forcément quelqu'un qui va proposer d'Iron Man au gouvernement. Donc autant que ce soit lui, et qu'il puisse contrôler un petit peu ce que le gouvernement va acquérir comme technologie. Donc du coup, Rhodes, avec l'armure d'Iron Man, est déployé sur une base, la base qu'il avait détruite dans la série War Machine Volume 2 pendant le Dark Reign, quand il était sous le contrôle d'Osorn, où elle avait détruite parce qu'il se battait contre des robots d'Ultimo. Bref, là-bas dans la base, on lui en veut en tout cas d'avoir pas mal détruit cette base, et du coup il est en terrain plutôt hostile.
Ouais.
Et sa première affaire, puisque d'ailleurs le général de la base dit qu'il va faire de Rhodes, il va refaire de lui un soldat.
D'accord.
Il a vraiment décidé de le faire chier et que ce soit de nouveau un vrai soldat et
Garde-vous.
pas un espèce
De
de
truffaut.
pseudo civil en fait,
Oui.
puisque il a beaucoup travaillé dans le privé, donc il a pris d'autres méthodes, voilà. Donc la première affaire sur laquelle il va travailler, c'est l'affaire d'un scientifique qui s'appelle Palmer Hadley, qui est mort en se suicidant, mais toutes les inventions qu'il avait créées, puisque c'est un espèce de trucs de scientifiques super ultra secrets qui travaillent pour le gouvernement avec des inventions mises dans un coin où personne ne peut rentrer. Enfin voilà, c'est vraiment le truc super bien caché, bien camouflé, personne n'est au courant. Mais bizarrement, les inventions qu'il avait créées s'arrêtent de marcher une à une et elles refont surface un peu partout dans le monde à des fins terroristes.
Un petit peu comme si, ce qui s'était passé avec Ezekiel Stan.
Un peu, ouais. Un peu. Un peu dans cet esprit-là.
Ça rappelle quand même ça, quoi. Pas mal.
Bah, de toute façon, malheureusement, c'est Iron Man, il y a souvent des thèmes très récurrents chez Iron Man.
Ouais.
Du coup, donc, on raconte à Rhodes tout ça. C'est vraiment un numéro de mise en place. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'action. Le scénario part plutôt pas mal. Il va devoir enquêter sur cette histoire de scientifique dont les inventions sont récupérées par des terroristes, alors que celui-ci est mort, et qu'à chaque fois, en plus, il y a des messages. À chaque attentat terroriste qui est fait, il y a un message Palmer Hadley est mort, qui est écrit sur les murs ou ce genre de choses.
D'accord.
Donc pourquoi? On a une première idée du pourquoi, notamment dans une case où on voit James Rhodes tenir le permis de conduire de ce Palmer Hadley, donc les effets personnels qui restent de se suicider. Et on comprend pourquoi. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Maintenant, il va falloir nous expliquer aussi comment ça se fait. Parce que ça paraît un petit peu gros.
D'accord.
Mais je
OK.
veux pas trop en révéler parce que je voudrais pas trop spoiler. On voit aussi une femme qui a reçu des reins d'un donneur et qui a profondément changé. Et avec une image finale, on se dit c'est l'éternel problème de tout lancement de série d'Iron Man. Donc
D'accord.
je vous renvoie au premier numéro d'Iron Man Volume 5, au numéro d'Iron Man Legacy, etc.
Et est-ce que cette femme, on la connaît?
Non, du tout, du tout.
D'accord. Et je crois savoir d'ailleurs que, comme souvent, hein, sur les nouvelles séries comme ça, enfin les nouvelles séries, quand on relance un personnage, il y a des pages récap de la carrière de ce personnage.
Oui, il y a un Marvel Saga à la fin qui raconte un petit peu l'histoire de James Rhodes, qui est sympathique pour ceux qui la connaissent pas, ça permet de faire un petit point.
Et puis des pistes de lecture, en grosso modo, toute sa carrière en TPB, quoi.
Ouais, voilà. Bah, comme ils font à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'ils relancent un titre, on a vu le cas dans Heroes for Hire récemment.
Ça peut toujours être utile, quand même.
C'est en tout cas sympathique. Il y a vraiment l'ambiance Nick Spencer. Pour ceux qui ont lu les Morning Glories, Infinite Vacation, il y a une touche Nick Spencer, vraiment un petit côté sombre, un mélange scientifique, technologique. Voilà.
Mais est-ce
On
que
a des
c'est aussi
pistes.
bon que du Nick Spencer sur de l'indé?
J'ai pas été autant accroché que sur Infinite Vacation ou sur Morning Glories, par exemple.
Ouais.
Maintenant, moi, j'ai toujours bien aimé le personnage de War Machine.
D'accord.
Enfin, il m'a toujours
Alors que moi,
fait.
il me laisse froid, hein, je dois dire.
Voilà, enfin, je le trouve sympathique. Maintenant, je suis pas le genre à aller lire toutes les séries. J'ai pas lu les War Machine manga parce que ça m'insupporte. Donc, je sais pas si c'était bon ou pas. J'étais pas non plus particulièrement fan de la dernière série où le mec se transforme en robot géant façon Transformers ou façon Power Rangers plutôt. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le pitch de base est intéressant. C'est relativement calme, c'est bien posé. Faut voir. Disons, pour moi, c'est un check-it. C'est
D'accord,
un
bon bah
check-it.
écoute.
Je te repasse la parole pour la
Ouais.
dernière review solo de la semaine.
Oui, la dernière review de la semaine qui sera le Justice League Generation Lost. Ça faisait aussi un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Le numéro 20. Au scénario, donc on retrouve toujours Jude Winnick. Au dessin, Ed Bennett. Un numéro qui démarre sur les chapeaux de roue. Alors là, je vais être obligé de spoiler parce que à la fin, je vais être obligé de spoiler au fait la fin du dernier numéro, le numéro
Oh,
19,
bah,
qui est sorti il y a 2 semaines.
il est sorti il y a 2 semaines, donc voilà.
Voilà, donc bouchez-vous les oreilles ou passez même limite la review si vous ne voulez pas savoir que justement Max Lord a à nouveau tué Blue Beetle. Donc Steve?
Mon cœur vient de mourir un petit peu.
Oui d'accord, hein, parce que je t'entendais plus,
Ouais.
je me suis dit mince, il y a une couille, ça y est, ça a coupé, je l'ai perdu. Donc oui, il l'a tué à nouveau.
Donc le Blue Beetle Jimmy
Oui, voilà, exactement. Le dernier en date, devant en plus les membres de la Justice League, enfin j'ai envie de dire International, mais c'est pas eux, puisque
pas tous, quoi.
ouais, pas tous, oui, enfin devant Booster Gold et les autres, et
Ouais.
Atom par exemple. Et donc bah ils sont tous dégoûtés. Et les trois quarts. Tu t'en doutes.
J'aime beaucoup. Tu m'étonnes, ils doivent être un peu dégoûtés, c'est clair.
Et non, mais ils veulent surtout lui casser la gueule, quoi. Hein. Ils veulent en finir avec Max Lord.
Faut
Mais
appeler Wonder Woman, elle va leur péter le cou.
oui, et donc lui parvient à se tirer. Alors il part à sa poursuite. Et on assiste surtout dans ce numéro à des flashbacks sur la jeunesse de Max Lord, qui explique pourquoi il a autant changé, pourquoi il a subi cette évolution, qu'est-ce qui l'a fait basculer, quoi, à quel moment il a basculé vers le
Du côté obscur.
voilà, vers à quel moment il est devenu Dark Vador, quoi. En gros. Donc à quel moment il est devenu un gros gros méchant, pas beau, qui est pas sympa et qui tue toujours Blue Beetle. Et non, bah moi j'ai trouvé le numéro intéressant. Alors peut-être que c'est parce que surtout Max Lord, je ne le connais pas trop vu que je n'avais pas lu à l'époque les Justice League International.
Très
Mais
très bien, c'est à lire ça, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est vraiment à lire.
voilà. Mais là, franchement, je suis fan du personnage de Max Lord. Et là, c'est ce numéro m'a vraiment intéressé. Pour le côté justement, voilà, psychologie du personnage, à quel moment il est parti du côté obscur, et puis bon bah on assiste quand même à une mort qui, à n'en pas douter, aura des répercussions et qui est un peu dommage, cela dit, puisque ce nouveau Blue Beetle n'aura finalement pas fait très long feu, quoi.
Oh bah quand même, ça fait 7-8 ans quand même qu'il est là.
Ouais.
Non, peut-être pas 7-8 ans. Je dis une connerie, puisqu'il est mort
Bah
dans
non, il est apparu dans oui.
Putain, c'était quand? C'était bah pendant
Deadbird.
au Mac Project.
Bah juste avant en fait, c'était dans le numéro gratuit.
Oui, le numéro. Enfin, non, il n'était pas gratuit, il était à 50 cents, je crois.
Ah oui, bah Album l'avait. Alors, bon geste d'Album à l'époque qui me l'avait donné gratos.
Et c'était un le décès, je sais plus quoi, c'était juste avant Infinite Crisis, c'était un numéro de 80 pages, un truc monstrueux, où justement il y avait toute cette histoire avec le projet OMAC et machin, donc ça doit dater de 2006. Et le personnage de Blue Beetle était là depuis, et il avait eu aussi une carrière dans l'animation, quoi. Enfin, je veux dire, le personnage était devenu assez regardé par les fans, assez aimé. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que on a tué. Alors, je veux pas dire que DC est raciste du tout, mais c'est quand même un des seuls personnages hispaniques dans le mainstream, en tout cas chez DC. Et voilà, et on
Ouais,
le
mais là
tue,
je pense
quoi.
que c'est plus dû au hasard, hein. Enfin, c'est
Mais
dû
ouais,
au hasard.
enfin.
Je veux dire, c'est Blue
Bien
Beetle.
sûr, enfin oui, c'était pour le symbole du Blue Beetle, mais
Oui.
je veux dire, bon, des personnages hispaniques, il n'y en a pas des tonnes, quoi. Donc ça craint un petit peu aussi, quoi.
Bon, bah enfin en tout cas, un numéro intéressant, ma foi. Moi j'aime beaucoup Justice League Generation Lost. Beaucoup préfère par contre Brightest Day, entre les deux, hein, à choisir. Mais je t'avouerai que par exemple le dernier Brightest Day, donc celui que j'ai chroniqué je crois la semaine dernière,
Oui.
m'a laissé un peu plus froid parce que finalement c'était vraiment que de la grosse baston, alors que là, il y a quand même un peu plus, quoi.
Et puis peut-être que tu t'intéresses moins au personnage d'Aquaman aussi, ce qui est
Peut-être.
compréhensible.
Oui, moi je préfère Max Lord à choisir, hein, très franchement. Donc voilà.
Mmh.
Donc bon, un numéro qui m'a intéressé, qui m'a bien plu. Donc pour moi c'est un bail. Et d'une manière générale, j'aime beaucoup moi Generation Lost. Donc je vous encourage vivement à découvrir cette série et à la lire si jamais elle ne sort pas en français. Il y a des chances qu'elle ne sorte pas malheureusement. Donc de vous tourner peut-être vers les TPB.
Et puis peut-être, puisque on en a parlé, ferons-nous un spécial, l'un de ces quatre, sur Justice League International. Ça pourrait être sympathique de relire cette série des années après sa création.
D'accord, bah écoute, c'est dit.
Ce sera pas le thème du prochain spécial du mois de mars,
Non,
puisque il est
non,
déjà choisi et il s'enregistrera bientôt. Mais voilà, pourquoi pas peut-être dans 2 mois ou 2 mois encore après. Enfin, je sais pas.
un jour.
Voilà, on verra. Donc un bail. Eh ben, c'est bien.
Oui.
Deux bails. Pour
De
toi.
bye-bye. Voilà, c'est ce qu'on va devoir faire maintenant, très vite.
Eh bien non,
Ah
puisque nous
non?
avons reçu un mail
Ah là là, le
de
mail.
Chaos Storm.
Chaos Storm, qui je crois c'est son premier mail.
Ah non, du tout.
Bon, j'aime bien. Le mec super super au courant des mails des fans, super. Voilà.
Mais je me fais tatouer leur prénom sur, enfin leur pseudo sur les avant-bras.
Non mais c'est je dis ça pour moi, hein, que
Ah oui.
je devrais peut-être faire plus attention à ce genre de détails. Bon, donc ok, très bien.
Donc, mail de Chaos Storm, qui nous pose une petite question, plusieurs en fait. Il nous dit, il y a quelques séries qui me tentent et j'aimerais savoir si vous pensez à une éventuelle sortie VF. Voici les séries. Infinite Vacation, Booster Gold, Guarding the Globe, Heroes for Hire, Marine Man, iZombie. Je veux dire tout le mail et puis on répondra ensuite, hein.
D'accord, ok, ça marche.
Dans les cas où on ne pourrait pas envisager de sortie VF, pour préciser, je débute en lecture VO et pour vous donner un exemple, j'arrive sans trop de problème à comprendre GLC, mais je galère un peu plus sur Big Time en ce moment. Partant de là, est-ce que dans ces séries, certaines sont trop complexes à comprendre en VO? Enfin, pour finir, si je dois lire Guardians of the Globe en VO, dois-je avoir lu un certain nombre d'Invincible ou est-ce indépendant? Merci pour vos réponses et continuez comme ça. Bon, on va prendre les séries dans l'ordre.
Ouais.
Alors, Infinite Vacation. C'est une mini en 5. Donc, je pense qu'on peut arriver à l'avoir débarqué en français, notamment chez Delcourt, puisque c'est du Image. Alors, maintenant, quand? Ça, c'est la grande question. Faut voir si le reste de la série remporte un franc succès.
Il y a des chances.
Mais je pense que oui, ça c'est quelque chose qu'on peut arriver à avoir débarqué soit chez Delcourt, soit chez Milady.
Ouais, l'un ou l'autre. Mais par contre, en anglais, est-ce que c'est facile à lire, Infinite Vacation?
Suis pas certain.
Ouais.
Je suis pas certain. Non, moi je dirais que c'est peut-être un peu hardcore. Parce qu'on a quand même des termes relatifs à l'informatique et ce genre de choses. On a un langage qui se rapproche beaucoup plus de ce qui est dans Big Time, puisque c'est un langage plus parlé d'aujourd'hui, un langage plutôt Jones entre guillemets, quoi, que sur Green Lantern Corps, qui est relativement mieux écrit. Comment dire? C'est plus un anglais académique, on va dire. C'est pas non plus de langage super soutenu, mais voilà, c'est un anglais plus propre, si je peux dire ça comme ça.
D'accord.
Mais je sais pas, je attendais peut-être une confirmation de ta part.
Oui, non, mais je pense aussi qu'effectivement, il faudrait peut-être attendre une sortie française, ce sera peut-être plus simple.
L'écriture à la Dan Slott est vraiment une écriture du parler, quoi. C'est
Ouais.
un peu comme fait Bendis, d'ailleurs. Booster Gold. Alors là, définitivement non. Il y aura aucune sortie VF.
Ça c'est sûr, ouais.
Oublié.
Je pense que malheureusement on peut faire un trait dessus. Bah ouais. Et du coup,
Alors après on peut se tromper, hein.
mais
Peut-être que
ouais, enfin,
Panini,
la
d'un
seule
seul coup, va
solution ce serait
décider
de
de
les sortir en
sortir.
big book.
Bah oui, bien sûr. Mais honnêtement, il n'y en a pas pour cette année d'annoncer. 2012 peut-être, mais j'y crois pas, quoi. J'y crois pas.
Non, puis on va pas attendre non plus 107 ans, donc est-ce que c'est abordable en anglais, Booster Gold?
C'est toujours très difficile d'évaluer
Ouais, de se mettre à la place du lecteur
quand on n'a aucun problème de compréhension. Hein, je me moque pas du tout, puisqu'on est tous passés par là. Je dirais que c'est relativement compréhensible. Moi, je pense qu'on peut, quoi, quand on lit Green Lantern Corps, je pense qu'on peut lire Booster Gold.
Ouais.
C'est pas le même type de langage. Il y a beaucoup d'aller et venu dans le temps, ce genre de choses, mais je pense que ça doit être compréhensible, quoi. C'est plus, pour moi, ça se rapproche plus d'un Green Lantern Corps que d'un Spider-Man actuel, quoi.
Ouais, totalement, ouais.
En
Dans
termes
les
de langage.
Spider-Man, il y a beaucoup d'argot aussi,
Oui, bah oui,
ce qu'il
beaucoup
n'y a
de
pas
langage de
forcément
langage.
d'ailleurs dans les comics écrits par Bendis, qui sont peut-être plus compréhensibles quand même.
D'ailleurs, à noter quand même que ce que j'ai remarqué dans les derniers Amazing Spider-Man, c'est que le mot as n'est plus censuré, bizarrement.
Écoute, bah ça valait le coup
Alors
de le signer.
que des trucs comme bullshit continuent à être censurés, tu vois. C'est voilà, je trouve ça bizarre.
D'accord.
Bref, c'était une petite aparté. On arrive à Guardian de Globe. Alors, Guardian de Globe, si ça sortira en français, ce sera clairement chez Delcourt, puisque ça fait
Ouais.
partie de l'univers d'Invincible.
Ouais. Alors, est-ce que ça sortira? Bah, faut voir déjà s'ils arrivent à rattraper le retard qu'ils ont sur Invincible et si ça fonctionne toujours, puisqu'on les a au compte-gouttes, hein, quand même, faut dire. Donc, d'ici qu'on arrive à Guardians of the Globe, faudra attendre déjà un certain temps. Maintenant, bon, d'un point de vue compréhension, Invincible est assez simple à comprendre, je pense, en anglais.
Il y a beaucoup de textes, mais enfin, c'est quand même au niveau langage, c'est plus proche d'un Amazing Spider-Man que d'un Green Lantern Corps. Hein.
Ouais, mais
Mais
c'est
ça reste compréhensible.
c'est des mots, enfin, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple, je pense. Je sais que Fuchs les lit en anglais, donc bon, il y arrive, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et Guardians of the Globe, c'est. Non mais je dis pas ça pour Fuchs, mais. Enfin, tu m'as compris, quoi.
Oui, non, mais oui.
Voilà.
Bah, Fuchs,
Fuchs
on pense
n'étant
à
pas un
toi.
spécialiste de l'anglais, et s'il arrive à comprendre sans problème Invincible, je pense que Guardians of the Globe, ce sera pareil, quoi. Je pense que tu peux y aller.
Alors
Si jamais ça sort pas en français, mais si ça sort, ce sera pas avant un certain temps. Voilà.
maintenant, la question, doit-on avoir lu un certain nombre d'Invincible? Alors, comme toi, tu as lu
Ah.
Guardians of the Globe, qu'en
Oui,
penses-tu?
quand même, parce qu'il y a pas mal de personnages de l'univers d'Invincible que tu ne connaîtras pas forcément et ce serait dommage.
À savoir que toi, tu les as lus qu'en VF, hein, les Invincible, par contre.
Oui.
Tu n'as pas
Et
lu Invincible en VO.
d'ailleurs, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des personnages de Guardians of the Globe que je ne connaissais pas encore et c'est dommage parce que, par exemple, Britt, je l'ai découvert dans le dernier tome français d'Invincible alors que je l'ai lu dans, enfin, je l'ai vu ce personnage-là dans Guardians of the Globe et c'est dommage de le prendre dans l'autre sens, quoi, en fait. Finalement, vaut mieux lire les épisodes d'Invincible déjà et puis ensuite lire Guardians of the Globe.
Mais ça ne t'a quand même pas trop gêné à la compréhension.
Non, pas trop, mais bon.
C'est quand même relativement indépendant de la série Invincible.
Ouais, oui, quand même, ouais.
Voilà. Donc avec en base pour base les tomes VF, ça devrait suffire. Pour arriver à comprendre l'histoire sans se dire putain mais qui c'est, je comprends rien, j'ai raté 150 épisodes. Je sais pas, c'est une question.
Ouais, non, mais exactement, ouais. C'est compréhensible, mais
Mais bon,
bon, voilà.
à savoir quand même que Guardians of the Globe n'est pas fini, et donc il va falloir encore attendre quelques mois pour en
Oui,
TGB.
d'ailleurs, ça prend du temps, ça, quoi, ça prend le temps. Je sais pas combien on en est, mais
3, je crois.
D'accord.
Je ne sais pas si 4 est sorti, je crois pas encore. Ensuite, Heroes for Hire. Alors, Heroes for Hire, définitivement, je vais te dire oui. Panini va sûrement pas passer à côté de la poule aux œufs d'or qui est Abnett et Andy Lanning, puisque c'est eux qui gèrent le Marvel Universe, qui a quand même très bonne réputation dans les parutions françaises. Donc voilà, je pense que ça, on le verra arriver dans un 100%, à mon avis.
Ouais, un 100%, ou bien alors peut-être que ce sera incorporé dans un mag, parce que c'est quand même une grosse série, je ne sais pas.
Ah,
À
c'est
voir.
relativement indépendant, il y a des personnages qui passent qui sont pas forcément les grosses têtes d'affiche, quoique ils
Oui, bah
pourraient peut-être le mettre dans
justement,
Stars
ils
du
vont
coup.
peut-être nous le mettre dans Marvel Stars en remplaçant
Voilà.
Secret Warriors ou je ne sais quoi.
Ah non, s'ils ne remplaceront pas Secret Warriors, c'est pas possible.
Secret Warriors, bah ça s'arrête un
Non,
jour.
pardon, excuse-moi, je pensais à Secret
Oui,
Avengers, autant pour moi.
non, Secret Warriors va s'arrêter un jour, donc peut-être qu'il va être remplacé par Heroes for Hire à ce moment-là.
Peut-être. Moi, je penche plutôt pour le 100%, hein, à la
Bon,
manière d'un Moon
on
Knight
verra. Les paris
ou
sont
d'un Ghost
lancés, mais en tout
Rider,
cas,
ce
c'est
genre
sûr
de
que
truc.
c'est sorti en français.
Ça, c'est clair et net. Ils vont pas passer à côté de ça,
Voilà.
qui a quand même vraiment bien vendu aux États-Unis, qui a été sold out. Donc voilà.
Voilà, donc
Bon,
on l'a
enfin
d'ici
maintenant,
quelques mois.
avec les chiffres actuels, un sold out, c'est voilà, c'est pas grand-chose non plus. Mais Marine Man.
Alors, Marine
Alors
Man,
là, j'en ai
grande
aucune idée.
question, peut-être chez Milady un jour, ou peut-être alors chez Delcourt, vu que c'est du image, hein, si je me gourre pas, non?
Oui. Là, honnêtement, j'en ai aucune idée.
Mais
Je t'avoue que je l'ai même pas lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut.
il y a quand même des chances. Il y a quand même des chances parce que c'est voilà, c'est quand même du j'ai oublié
Yann
même son
Churchill.
nom. Ian
Yann,
Churchill.
ouais.
Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un truc que je verrais bien publié dans ces maisons d'édition en français un de ces jours.
Ben moi, je parierais pas dessus. Peut-être Merluche.
Peut-être Merluche, nos amis.
Attention à la traduction.
Ça dépend, oui. Et ça dépend de
Alors,
qui traduit.
pour le... Ah oui, alors, on n'a pas répondu à Heroes for Hire, la VO. Est-elle lisible? Je pense que oui. Maintenant, je sais pas ton avis.
Alors là, je ne sais pas parce que je n'en ai pas lu, j'en ai feuilleté,
Non,
j'en ai vu.
je parlais d'Heroes for Hire.
Ah
Excuse-moi,
d'accord, Heroes
on
for
avait
Hire. Bah
oublié.
Heroes for Hire,
Je pense que c'est lisible.
je pense que c'est
Hein.
lisible, ouais. Parce que ce qui fin, oui, c'est lisible, ouais.
Bon, maintenant, Marine Man, voilà, Marine Man, moi je peux pas répondre, j'en ai pas
Bah
lu.
alors j'en ai feuilleté, je pense que c'est aussi compréhensible en anglais, hein, honnêtement.
Moi, je sais pas, je peux pas me prononcer, comme j'en ai pas lu du tout, je peux pas... voilà. Alors, le dernier de la liste, c'était iZombie. Alors, iZombie, c'est très particulier, parce que, bon, ceux qui ont les droits Vertigo en France actuellement, ce sont Panini. Panini a tendance, pour les séries Vertigo, à attendre qu'il y ait un vrai gros stock derrière, de manière à assurer une assez longue longévité à la série. Assez longue longévité, c'est très joli. Par exemple, pour Scalped, il a fallu attendre qu'il y ait au moins 30 épisodes de publiés aux States avant qu'on ait le premier tome de Scalped en français. Ça a été à peu près la même chose pour DMZ. Maintenant, il y a quelques exceptions, comme on peut le voir ce mois-ci, avec Unwritten ou American Vampire qui sont sortis. Unwritten, on est à l'épisode 20, à peu près aux États-Unis. Et American Vampire, le 12 est sorti cette semaine. Bon,
C'est
à
vrai qu'ils
savoir
font
que...
pas comme Delcourt qui se pressent plus, quoi.
Voilà, à savoir quand même qu'American Vampire, il y a le nom de Stephen King qui joue en sa
Voilà,
faveur.
exactement. Il y a le nom de Stephen King qui fait que c'est vendeur.
Unwritten, ça a été un gros succès critique. C'est le nom de Mike Carey quand même, qui a vendu pas mal, hein, que ce soit sur les licences actuellement X-Men, mais aussi sur les licences Vertigo, c'est Lucifer, c'est Crossing Midnight, enfin voilà, ce sont des séries qui ont une certaine aura. Puis il y a le Blazer, quand même.
Oui.
Donc voilà, maintenant, iZombie, c'est un scénariste pas connu.
Et puis surtout des dessins qui ne plaisent pas à tous.
Alors, c'est Michael Red.
Ouais, c'est Michael Red. Je sais que Michael Red, moi par exemple, je suis pas fan, je dois le dire. C'est particulier. Voilà, c'est un truc un petit, alors, disons moins grand public que The Unwritten, quoi.
Ah oui, complètement. Donc du coup, là, parier sur une sortie VF, c'est très délicat.
Bah, ouais, mais c'est...
Peut-être, mais quand? C'est surtout ça le problème, c'est quand?
Oui, quand? Bah, à mon avis, pas tout de suite, mais c'est possible. C'est bien possible.
Déjà, il y a des chances que ce soit dans la catégorie noire, enfin tu sais, la même catégorie qu'ils ont fait pour Simon Dark, là. La
Ah.
catégorie Dark, puisque bah c'est quand même sort un zombie avec des loups-garous, des fantômes.
Peut-être, peut-être.
Mais voilà, le gros problème, c'est quand? En tout cas, c'est pas annoncé pour 2011,
Et en tout cas,
pas
je
loin de
pense
là.
qu'en anglais, ça doit être assez complexe.
En anglais, ouais, je le conseillerais pas. Je
Voilà.
le conseillerais pas. D'ailleurs, Fuchs, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, Fuchs a essayé à iZombie et n'a pas accroché du
Il a
tout,
eu des problèmes
par
ensuite.
exemple. Il n'a pas du tout accroché, puisqu'il n'aime pas non plus le style de Michael Red. C'est vraiment pas son truc. Et puis même l'ambiance, l'histoire, il n'a pas accroché, quoi. Donc comme quoi, ça plaît pas à tout le monde. Donc iZombie, voilà, sortie française, gros point d'interrogation. Et puis VO, je pense que c'est peut-être un peu ardu, quoi. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à tes questions. En tout cas, tu peux aller directement à la VO pour Booster Gold, ça c'est clair et net. C'est même pas la peine d'attendre une VF. Marine Man, ça vient tout juste de démarrer aux États-Unis, donc attendre un TPB, il va y en avoir pour quelques mois. Vu qu'il n'y a que le numéro 1 peut-être le numéro 2 de sortie.
Le 2 est sorti, ouais.
Le 2 est sorti. Je te conseillerais peut-être de voir avec ton comic shop s'il n'y a pas moyen de récupérer ça en single. Ce qui est pas mal aussi, puisque ça permet de faire vendre et de faire survivre la série. Puisque Ian Churchill l'autofinance, puisque c'est chez Image, c'est un creator owned, plutôt qu'attendre un TPB, à voir si tu veux lire la série tout de suite ou si attendre quelques mois te dérange pas. Voilà. Pour le reste, Infinite Vacation vient de commencer. Donc là c'est pareil, single ou alors TPB dans quelques mois. Et puis Guardians of the Globe n'est pas fini. Et Eye Zombie, il y a déjà un premier TPB de sortie.
D'accord.
Et Rose for Hire, on en est au 3.
Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup vous, Chaosstorm, pour ce mail. J'espère qu'on a bien répondu à tes questions. Puis n'hésite pas à nous recontacter si jamais tu as d'autres questions sur d'autres séries ou d'autres questions tout court. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites comme Chaosstorm, ou comme King Ed, ou comme tous les autres qui nous ont envoyé des messages avant, laissez-nous un petit mail, on le lira à l'antenne, on répondra à la question s'il y a question, et ou alors, vous nous laissez un commentaire, on peut très bien lire un commentaire à l'antenne, un commentaire qui aurait des questions auxquelles on n'aurait pas répondu tout de suite en commentaire. Ou alors par le répondeur. Le numéro de téléphone du répondeur est sur le poste qui accompagne le podcast.
Le fameux répondeur.
Le fameux répondeur.
Le fameux répondeur. Ouais. Disons
celui, le. Celui qui n'a pas de message.
Voilà.
Et qui va peut-être être arrêté très bientôt, puisque ça coûte de l'argent. Et que si ça coûte de l'argent et qu'on n'a pas de message, on ne va pas garder quelque chose qui plombe notre compte bancaire.
Sauver le répondeur, en fait, faut sauver le répondeur. Rendez-vous compte, c'est l'opération simple. Actuelle de Comic City, sauvons le répondeur.
C'est peut-être pas grand-chose, mais ça revient à 15€ pour 3 mois.
Voilà.
Donc, c'est 15€ qu'on peut mettre ailleurs, dans des comics notamment.
Par exemple, ou dans un nouveau casque qui devrait arriver bientôt.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On va se quitter, comme d'habitude, avec le mot de la fin de Benny,
voilà.
Qui était un peu en panne d'inspi, donc j'espère que tu as trouvé quelque chose.
J'ai suivi ton conseil, donc je vais te faire un petit...
C'est pas ma blague, j'espère que c'est pas ma blague de merde d'un podcast.
C'est... Bifius.
ne lui fais pas...
Non. Attends, c'est pas fini. But the Rock is cooking. Et c'est une référence que seuls certains fans d'un certain divertissement comprendront.
Voilà. En hommage à son retour.
Oui, voilà. Il est de retour. Voilà. Qui ça? Cherchez donc.
Bien. Eh bien, on a encore débordé sur le temps cette semaine, malheureusement.
Ouais, ouais.
En bonne compagnie, on ne voit plus le temps passer.
Non, voilà, c'est ça.
C'est magique. On se dit donc à la semaine prochaine, et nous, on va aller de ce pas enregistrer le Comic City. Car ça ne s'arrête pas, et demain nous enregistrons le Comic City Chronicles.
Voilà. Voilà.
Car ça ne s'arrête jamais.
Non. C'est toujours tellement de bonheur. j'en tousse de joie.
Nos week-ends sont remplis de podcasts dans le monde merveilleux de Comic City Land.
Voilà.
Nous aussi on va se faire une île comme Spider-Man.
Ouais, une Comic City Island.
Ça pète la classe. Bien.
On ça pète la classe. Comics.
Ouais, ça pète la classe.
Très bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là.
Janus Mel, hein. Oui. Voilà, et autre joyeuseté, et à la semaine prochaine.
Ciao à tous.